Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une production Binge Audio, évidemment.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je me souviens avec précision de ce jour du tout début des années 2000, alors que j'étais ado, où le hasard et la promesse éclatante de son titre explosif nous avaient fait louer, au vidéoclub qu'on fréquentait avec mon petit frère, la VHS du film « Les ailes de l'enfer ».
Mesdames et messieurs, chers passagers, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je détiens la seule arme qu'il y a à bord. Bienvenue sur Pirate Airlines.
Un film hautement psychédélique, où on voit un groupe de prisonniers détourner un avion pénitentiaire mené par un tueur psychopathe incarné par John Malkovich, dont le personnage, histoire de vous donner un peu l'ambiance, répond au doux surnom de Cyrus le virus. Bref, dans ce grand n'importe quoi tout à fait typique du cinéma d'action des années 90, surnageait particulièrement un homme, déjà une légende, Nicolas Cage. Un acteur unique en son genre, inclassable, connu autant pour sa capacité à emmener les personnages qu'il joue à la limite du grotesque que pour avoir tourné avec les plus grands, De Palma, Scorsese, les frères Cohen, David Lynch dans Sailor et Lula qui a eu la Palme d'Or en 90. Lula ! En cette fin d'année 2021, on nous annonce, avec le succès critique inattendu du film Pig, le retour de Nicolas Cage. Comme si l'acteur avait quitté un temps la scène. Mais en réalité, il n'est jamais parti. Au contraire, il s'est même démultiplié via la culture web, qui a fait de lui un véritable mème humain, un réservoir infini de gifs et de détournements. Pourquoi et comment ce personnage unique a réussi à survivre à la grande machine à lisser les carrières d'Hollywood? C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Et pour ne pas se perdre dans les sinuosités de la vie et de la carrière de Nicolas Cage, nous sommes entre les mains expertes de mon confrère Lelo Jimmy Battista, qui œuvre chez Libération et qui vient surtout de signer il y a quelques semaines un livre entièrement dédié à Cage aux éditions Capricci, un livre baptisé Nicolas Cage envers et contre tout. On a commencé par le tout début, c'est-à-dire par se demander qui était Nicolas Cage avant qu'il ne soit Nicolas Cage, car oui, figurez-vous, c'est pas son vrai nom.
C'était un gamin de Long Beach en Californie, qui a des parents, donc Auguste Coppola et Joy Vogelsang. Auguste Coppola, donc comme son nom l'indique, c'est le grand frère de Francis Ford Coppola. Et Joy Vogelsang, la mère, elle était danseuse et chorégraphe. Elle avait de gros problèmes psychiatriques. Elle a disparu un peu de la maison familiale assez tôt, puisque à partir du début des années 70, elle va vraiment suivre des soins assez intensifs dans des instituts spécialisés.
Lui, il a quel âge à peu près à
ce Il a 5-6 ans. Ça va être vraiment le père, Auguste Coppola, qui va vraiment prendre en charge l'éducation des trois enfants, puisqu'il y a trois fils, donc Nicolas, Marc, Christopher. Donc ils vont vivre un peu avec ce père-là, qui est un personnage assez particulier, puisqu'il est prof en université, prof de littérature essentiellement, et qui était un peu la star de sa famille quand il était plus jeune. C'est lui qui a initié Francis Ford Coppola au cinéma, etc., qui l'emmenait voir les films, il l'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Auguste Coppola, lui, était vraiment quelqu'un d'assez charismatique et très cultivé. Il était aussi chef de bande. Le père, Carmine Coppola, il avait déjà imaginé qu'Auguste deviendrait un grand artiste ou un grand savant, enfin quelque chose comme ça. Alors que Francis, c'était un peu, voilà, il était plus vu comme, typiquement, Carmine le voyait plus comme lui, il deviendra un peu ingénieur, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a du talent, mais qui n'a pas vraiment de génie particulier. Ouais. Quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Auguste Coppola, lui, est parti complètement dans une autre direction. Il est parti dans l'université, il est devenu prof, etc. Et alors que Francis, lui, est vraiment parti dans le cinéma. rien ne s'est passé vraiment comme prévu, quoi.
Nicolas Cage, lui, donc, c'est le fils d'Auguste Coppola, c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Comment est-ce qu'il se retrouve, donc il s'appelle à l'époque Nicolas Kim Coppola,
c'est ça.
Comment est-ce qu'il se retrouve dans le monde du cinéma? Est-ce que c'est le pouvoir d'attraction de son oncle qui s'exerce?
Bah, oui et non, c'est-à-dire qu'il a, il va grandir beaucoup avec le cinéma par son père, parce que son père va l'emmener beaucoup au cinéma, va lui montrer beaucoup de films. Très très jeune, en fait, à l'âge où vraiment ses camarades de classe vont voir des Disney, lui, il l'emmène voir James Bond, il l'emmène voir aussi des films, un peu des films des années 20, des années 30, les films de Lon Chaney, des choses comme ça, qui vont vraiment beaucoup le marquer. Très jeune, il va avoir une culture cinématographique assez importante. Il passe beaucoup de temps, surtout l'été, chez les cousins Coppola, donc il va passer une année complète chez eux. À ce moment-là, les Coppola sont déjà, enfin, Francis Ford Coppola a déjà fait des films, il est déjà connu, déjà célèbre, par un d'eux, etc. Enfin, des choses qui l'ont rendu très, 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 très célèbre et très riche. Mais étrangement, il va ressentir une espèce d'envie à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment un truc de jalousie, un peu, quoi, d'avoir envie d'avoir autant d'argent que son oncle. Et par contre, le vrai truc qui va être le déclencheur, enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, ça va être vraiment, durant cette année-là, il va voir à l'Est d'Éden avec James Dean, le film de l'année 15 ans.
James Dean as Cal, the wildest boy you've ever met.
Your son Aaron, he's everything that's good.
Say hello to your mother, Aaron.
Say hello to your mother!
No!
Ça va vraiment le marquer plus que toute autre chose. Et à partir de là, il va commencer à apprendre des cours d'art dramatique au lycée. Il va être pris dans des pièces, etc. etc. Et puis, de fil en aiguille, bon, c'est plus compliqué que ça, puisque en gros, il va un peu claquer la porte du lycée, se dire qu'il va pouvoir y arriver tout seul, passer des auditions, être rejeté de partout. Et puis finalement, finir par y arriver... par des biais un peu détournés parfois, parce qu'il va devoir changer de nom, il va vouloir changer de nom, parce que le nom devient aussi un handicap. C'est-à-dire qu'il avait des auditions très facilement, évidemment, tout le monde l'appelait partout, mais la plupart des gens se retrouvaient en audition, et il avait des gens qui voulaient uniquement parler de Francis Ford Coppola pendant une heure, quoi. Et c'est quand il va vraiment changer de nom, il va se défaire du nom, et il va donc devenir Nicolas Cage, et là, il va vraiment être pris comme un anonyme, et ça a beaucoup mieux marché.
Do you think there's gonna be a war? I mean, like I'm registered. They called the draft. I'm in there, man. Dad says it's my patriotic duty. But you don't think there's going to be a war, do you?
Son tout premier rôle, qui n'a pas vu le jour, c'est un pilote, en fait. C'est un pilote de série. Une série qui s'appelle Best of Times, qui est très étrange. Donc voilà, ça, c'est son premier vrai rôle technique. Après, son premier vrai, entre guillemets, c'est compliqué parce qu'en fait, le suivant, Fast Times at Ridgemont High, qui est un peu... Bon, alors, chez nous, c'est pas un film très connu. C'est plus un film qui est très, très culte aux États-Unis. C'est un film de lycée, quoi. Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui jouent dedans. Sean Penn, Judge Reynolds, Forest Whitaker, Jessica Lange. Enfin, il y a beaucoup de gens dont c'était le premier rôle, en tout cas le rôle qui les a vraiment lancés. Et Nick Cage devait faire partie de ces gens-là. Et il a auditionné pour le rôle de Judge Reynolds, qui est un des rôles principaux. Mais ils l'ont pas pris. Ils l'ont finalement pris pour un rôle beaucoup plus secondaire qui, d'ailleurs, au montage, a finalement quasiment disparu. C'est-à-dire qu'on le voit toujours dans le film. Mais il faut être très, très, très attentif parce qu'il apparaît, je crois, dans 3 ou 4 plans et souvent de dos et il n'a pas de dialogue. Et après, bah, derrière, il y a Rusty James.
De Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola. Parce qu'en fait, évidemment, comme Francis Ford Coppola, son oncle, il a été le voir pour lui dire, voilà, fais-moi passer des auditions, je suis là, je suis prêt, j'ai envie de... Et Francis Ford Coppola s'est pas vraiment laissé démonter là-dessus. Il lui a dit, écoute, je te ferai passer des auditions quand vraiment j'aurai l'impression que tu pourras m'apporter quelque chose, quoi. Et Rusty James lui a dit, écoute, là, ce coup-ci, je veux que tu viennes. Mais il l'a pas pris du tout en acteur, il l'a pris pour faire les répétitions avec Mickey Rourke et Matt Dillon. Puis en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il a dit, non, je vais quand même te mettre dans le film, je vais te donner un rôle. Et il lui a donné un rôle un peu secondaire, mais qui là, pour le coup, est bien, bien, bien présent. Rôle d'ailleurs assez simple. Quand on connaît un peu l'histoire autour, c'est assez étrange parce que Rusty James, c'est un peu un film sur la relation entre Francis Ford Coppola et Auguste Coppola, donc le père de Nick Cage. Nick Cage, dans le film, porte la veste de la bande de son père. Il y a plein de choses mélangées. Et on sait qu'en plus, que durant le tournage, Nick Cage a été un peu, pas violenté, mais un peu secoué par Francis Ford Coppola, qui lui a fait faire des choses pas très cool, du style... 40 prises d'une scène où il devait regarder sa montre, quoi. Il y a aussi Sofia Coppola qui joue. Enfin, c'est un nœud familial assez compliqué, quoi. Après ces films dont on a parlé, les premiers films, il va continuer un peu. Il va un peu y aller à tâtons. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment dans quoi il se lance. Et il va beaucoup expérimenter, mais ça ne va pas être très concluant. il va beaucoup aussi se donner dans les choses comme la méthode, par exemple, où vraiment on s'implique complètement dans son rôle jusqu'à ne jamais sortir de son rôle, etc.
C'est être son personnage en dehors du tournage.
Ça va donner des choses un peu compliquées. Et si, durant cette période-là, fin des années 80, années 90, il va vraiment avoir cette espèce d'image de zinzin d'Hollywood qui porte des vestes en peau de serpent, qui mange des cafards, qui a une main en bois, enfin... il a beaucoup joué pour ça, c'est-à-dire qu'il a beaucoup fait pour ça, il a fait en sorte que tout aille dans ce sens-là. En fait. Et parfois, ça donne des situations assez ubuesques, comme sur Birdie, par exemple.
As scary as a bird's life must be, at least they have that. They can always fly away.
He's a little crazy. Thinks he can fly. Thinks he's a bird.
Pour le coup, Birdie, c'est un de ses premiers gros films, c'est pour une grosse production.
You like pigeons? What's the like?
Il joue un jeune soldat qui revient du Vietnam et qui a le visage couvert de bandeaux, qui a
une gueule cassée.
Une gueule cassée, quoi. À cette période-là, il est encore dans ses délires un peu de méthode, donc il garde les bandages toute la journée sur lui pour rester dans le personnage. À tel point d'ailleurs qu'il va perdre beaucoup de poids, il va perdre du kilo parce qu'il n'arrive pas à manger correctement parce qu'il y a du bandage à moitié sur la bouche. Mais à côté de ça, durant le tournage, il va devoir aller subir une opération dentaire classique. Il se fait arracher deux dents. Et par le téléphone arabe déformé des tournages entre la presse, machin, et déjà ce début de légende avec le fait qu'il lâche pas ses bandages, qu'il soit à fond dans son personnage, ce truc se transforme en il a été s'arracher deux dents sans anesthésie pour ressentir la douleur de son personnage. Ce qu'il va pas démentir du tout. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, tout le monde va prendre ça pour argent comptant. Juste après la sortie du film, il a démenti complètement parce qu'il a dit « J'ai rien dit pendant un moment parce que ça m'amusait de que ça participe en fait à mon mythe. » quoi. Mais à un moment, il faut quand même dire la vérité. Quoi. C'est-à-dire, tu peux pas, ça devient ridicule. Surtout qu'en fait, il y a aussi le fait qu'il a vu le résultat Birdie à l'écran, il n'a pas aimé le film. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait une recherche Nicolas Cage sur Twitter hier. Et en fait... Je vois dans le fil de ce qui tombe quelqu'un qui dit « Le saviez-vous, en 1984, Nicolas Cage se fait arracher deux dents pour ressentir la douleur de son personnage. » Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'anecdote qui après, il va faire un peu ça un peu plus finement, puis après, à un moment, il va avoir d'autres revirements jusqu'au moment où il va carrément lâcher le prise complètement. Quoi.
You just put it in the right file, according to alphabetical order. You know, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, huh?
Very good. You know your alphabet.
C'est plus facile de comparer avec des musiciens, par exemple. C'est-à-dire que la plupart des acteurs vont avoir des carrières un peu comme les Beatles, par exemple. C'est-à-dire qu'ils commencent plus ou moins petits et ça grossit. C'est une pente ascendante, quoi. Alors que Nick Cage, lui, il a vraiment un parcours plus à la Lou Reed ou à la Bob Dylan, où en fait, Bob Dylan, c'est il sort trois albums de folk, ensuite il passe à l'électrique.
Il se fâche avec les fans d'avant.
Il se fâche avec son public d'avant. Enfin voilà, il fait de la country, il va de la musique traditionnelle.
Il devient Born Again Christian.
Il fait des albums religieux. Après, ce qui est génial, c'est qu'il fait trois albums religieux et il revient à un moment, il fait bon, j'ai laissé tomber la religion et il fait un album de reggae avec Mark Knopfler de Dire Straits. C'est assez génial. C'est Nick Cage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il va façonner ce personnage de zinzin d'Hollywood, donc même avec des grands réalisateurs donc comme Lynch, ou Frère Cohen, etc. Et puis, à un moment, il décide, en 93, par exemple, il a une espèce de révélation. Il dit non, il faut que je fasse des comédies grand public. Il se met à faire des comédies romantiques, pas très heureuses d'ailleurs, et qui vont le mener aussi à un autre virement un peu plus tard, où il va se fourvoyer dans des films un peu, des productions assez merdiques, et où là, il va se dire non, il faut absolument que je revienne. Et là, il va aller vers encore d'autres types de films, notamment, il va aller vers Leaving Las Vegas, puis encore après, la trilogie des films d'action, Rock, Conner, Volteface. Enfin, c'est après Volteface où il se dit, là, il faut que j'arrête de chercher. J'ai toujours cherché à essayer de comprendre exactement quelle était mon image et à la façonner et à participer à tout ça. Et là, il se dit, je vais arrêter, je vais laisser les choses se faire. Par la suite... il va y avoir des événements qui vont se passer dans sa vie. Et l'arrivée d'Internet aussi, qui, tout ça mélangé, va faire que c'est carrément tout l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que non seulement il ne va plus avoir d'emprise sur l'image, mais qu'en plus, c'est les gens qui vont décider pour lui, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nick Cage aujourd'hui, c'est essentiellement une construction qui a été faite sur Internet à partir d'éléments un peu épars et dans lequel il y a toujours un fond de vérité, mais on a un truc un peu protéiforme, quoi.
When there's a TV show on that has one of my movies, I turn it off because I try to keep it as normal as possible in my home, and I don't want my son knowing what I do for a living. And sometimes,
how old is your son?
He's 4 years
old, and but you don't want him to know that you're.
I don't want him to know because I've noticed that recently at the dinner table he's been saying things like Nicolas Cage, could you please pass the
salt? Comment il s'est retrouvé au milieu de cette culture web, donc au sein de laquelle Nicolas Cage c'est quasiment un même humain. En tout cas, c'est une espèce de oui, c'est ça, d'ensemble composite de gifs animés, plus qu'un véritable personnage. Comment il s'est retrouvé là-dedans?
En fait, quand on l'analyse un petit peu, c'est une raison assez simple. C'est qu'en fait, il s'est passé beaucoup d'événements un peu carnavalesques durant les années 2000. Bon, il a eu le fisc sur le dos, qu'il a obligé à revendre plein de maisons. Il a acheté aussi des maisons un peu baroques. Il a été marié avec Lisa Marie Presley. Enfin, il a eu plein de choses. Il y a Sean Penn aussi qui était un de ses meilleurs amis, qui s'est retourné, qui a dit non, c'est devenu un mauvais acteur, de manière assez incompréhensible d'ailleurs. Et du coup, il y a tout d'un coup un petit récit qui s'est mis à se mettre en place. En gros, genre, Nick Cage est devenu un mauvais acteur, il est poursuivi par le fisc, il a plus d'argent, il est ruiné, il est obligé de faire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, il se m'a joué dans plein de films très très différents, souvent mauvais, faut quand même le dire. Et du coup, voilà, il commence à y avoir une espèce d'interprétation qui se fait. Et il s'avère que, enfin, moi par exemple, le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Nicolas Cage, pour que c'est vraiment devenu un objet de fascination, c'est en 2009 quand est sorti Bad Lieutenant, Port of Call New Orleans, de Werner Herzog. Je vois le film et alors que j'ai déjà vu des tas de films plus bizarres les uns que les autres, je vois ce film et je suis incapable de dire si c'est un chef-d'œuvre ou un nanar. Il y a un espèce d'équilibre parfait. Tout va se jouer au microgramme pour que ça penche d'un côté ou de l'autre. Et je me dis, mais c'est incroyable, il n'y a rien il n'y a aucun truc qui va jouer plus d'un côté que de l'autre. Et tout ça repose sur Nicolas Cage, sur sa performance qui est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est en train de faire c'est la performance la plus incroyable de tous les temps ou d'être vraiment en dessous de tout, quoi. Et c'est ce qui rend le film assez génial. Et en fait, cette performance-là, on se rend compte plus tard que c'est carrément l'illustration d'une espèce de règle tacite d'Internet, un truc qui s'appelle la loi de Poe, qui est un truc qui a été énoncé par un type qui s'appelle Nathan Poe. Alors, c'était son nom d'utilisateur sur un forum, donc c'est peut-être même pas son vrai nom. Donc, ce Nathan Poe, sur un forum chrétien, en 2005, il dit, il y a une discussion, il y a un moment, il intervient, il dit, bon, moi, sur ce sujet-là, j'ai un truc qui s'appelle la loi de Poe. Ça veut dire, en gros, que quand quelqu'un a une attitude ou un propos outrancier, si jamais il n'y a pas une mention claire et nette de son intention, c'est impossible de savoir s'il blague ou pas, quoi. Si c'est une parodie ou s'il est sérieux. Et Nick Cage, c'est carrément l'illustration parfaite de ça, notamment dans Bad Lieutenant. Mais aussi dans d'autres films, dans beaucoup d'autres films. On ne sait jamais trop sur quel pied danser, quoi. Et ça, forcément, ça aide à ce qu'il devienne un mème. Toutes ces postures un peu grotesques peuvent, bah oui, isoler sur un gif, peuvent devenir hilarantes pour n'importe qui, alors que dans le contexte, elles ne le sont peut-être pas, ou l'intention ne l'est peut-être pas, en tout cas. Quand il est devenu un mème, il y a une petite période où il va essayer de reprendre la main, où il va essayer de faire un peu genre, je comprends la blague, je suis avec vous, il va apparaître en public avec des t-shirts avec sa propre tête dessus, enfin des choses comme ça. Mais en fait, il va vite se rendre compte que ça ne sert à rien, parce que les gens, ils vont vouloir raconter et voir et entendre que ce qu'ils veulent voir, et voilà. Et ça, tu peux pas lutter contre des milliards de personnes en ligne, ça sert à rien.
What are you thinking?
I remember every meal I ever cooked. I remember every person I ever served. You live your life for them, and they don't even see you. You don't even see yourself.
Aujourd'hui, Nicolas Cage, il continue ce mélange, ces revirements, ces changements un peu permanents. Il y a eu quelques moments de grâce, pour reprendre une expression bien connue, récents. Je pense notamment à un film comme Mandy. Il est en ce moment beaucoup salué pour sa performance dans un film qui est au cinéma qui s'appelle Pig. Il en est à quelle phase de sa mutation permanente, Nicolas Cage?
Je sais pas s'il y a une phase. Là, en tout cas, il y a un truc intéressant, c'est qu'il est totalement en dehors d'Hollywood. Il le dit même, enfin, assez ouvertement. Il dit voilà, Hollywood l'intéresse plus vraiment. Bon, le réciproque est peut-être vrai aussi. parce que bah, les gens, déjà à Hollywood, ont peur d'un acteur comme lui qui est un peu ingérable. Mais lui, on ne veut pas non plus, parce qu'en fait, lui, il a envie de creuser son truc, il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça aussi qui le rend aussi intéressant, c'est que voilà, c'est peut-être un des derniers aujourd'hui qui se permet d'expérimenter, de faire vraiment des choses, de tenter des trucs, quitte voilà, à être vraiment parfois ridicule ou grotesque. Mais moi, il y tente, quoi. Le truc, c'est aussi que c'est quelqu'un qui veut travailler tout le temps, donc qui veut être acteur tout le temps, qui veut vraiment faire des films tout le temps, et c'est pour ça qu'il en fait des mauvais, c'est parce que s'il veut jouer tout le temps, il est obligé de prendre beaucoup de rôles, et forcément, dans le tas, il y en a forcément des meilleurs que d'autres. Mais c'est un truc qu'il fait depuis toujours. Aujourd'hui, c'est plus visible parce que comme l'industrie a beaucoup changé, les films ne sortent plus tous au cinéma et qu'ils se retrouvent beaucoup dans des direct-to-video, des choses comme ça. Il a par exemple enchaîné Sailor et Lula avec Firebirds, qui est un film d'hélicoptère, qui est une espèce de Top Gun d'hélicoptère, ou Zandali, qui est une adaptation de Thérèse Raquin complètement foireuse, qui est une espèce de soft porn. Il a enchaîné tout ça alors qu'il faisait Sailor et Lula, Arizona Junior, enfin. À l'époque, les gens, enfin moi, j'allais voir, Sailor et Lula, je l'ai vu au cinéma, Arizona Junior aussi, etc. Firebirds et Zandali, j'en avais jamais entendu parler. C'est des films que j'ai découverts bien, bien plus tard, parce que c'est des trucs qui sortaient vraiment, en loose day, quoi. Aujourd'hui, on est au courant de la moindre sortie. Forcément, quand Nicolas Cage fait un film, du pire au meilleur, on sera au courant. Il va faire Mandy, il va faire Pig, il va faire des très bons trucs. Puis entre les 5-6 films pourris qu'il va faire entre chaque. À la fin des années 80, on n'en aurait pas entendu parler. Et aujourd'hui, on le sait, quoi. On le sait qu'il a fait Wallis Wonderland, on le sait qu'il a fait Jiu-Jitsu, des choses comme ça, quoi. Là, il est vraiment sur un truc, enfin, pas forcément anti-hollywoodien, mais en tout cas vraiment en marge. Et je trouve ça assez intéressant. Après, je ne sais pas s'il va creuser ce sillon-là longtemps, ou si, justement, le fait qu'il commence à faire des films qui sont un peu remarqués va peut-être le faire revenir vers Hollywood aussi. Justement, je disais tout à l'heure que j'allais sur Twitter pour me tenir au courant de ces dernières nouvelles. C'est surtout qu'en fait, je crains qu'il puisse annoncer justement qu'il va rejouer dans un Benjamin Gates, un truc comme ça, quoi. Alors qu'il a annoncé, il n'y a pas si longtemps, qu'il ne se reverrait jamais bosser pour Hollywood et encore moins une boîte comme Disney, quoi. Donc en fait, voilà, maintenant, il fait ce qu'il a envie de faire. Et voilà, il y a un peu une histoire qui est assez marrante à raconter là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, il a toujours fait son boulot sans vraiment se soucier du public. Il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire, lui. Et le seul moment où il a commencé à vouloir se soucier du public, c'est là où il s'est dit « Non, ça sert à rien, en fait. Il n'y a rien à gagner à faire ça, quoi. » Alors que, en face, on a des gens qui font tout l'inverse.
Et si vous vous sentez pris d'une subite envie de tout connaître et de tout découvrir de Nicolas Cage, sa vie et surtout son œuvre, outre le livre de notre invité, je vous conseille le podcast auquel il participe. Il s'appelle Nick Fury, c'est au sein de l'équipe de cinéphiles de Discordia et il remonte les inconscients l'intégralité de la filmographie du bonhomme. Merci à Lélo Jimmy Battista pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.